et le lundi à 21h.
Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bon jeudi à tous et à toutes. C'est le 3 septembre 2026. J'espère que vous avez bien dormi. Comment allez-vous, Mathieu?
Je vais très bien.
Oui. Vous, vous calculez vos minutes de sommeil, hein?
Oui. Ben oui, je peux vous dire ça ce matin.
OK. On veut tout savoir.
Ça a été une petite nuit avec un bon score. Non, c'est nul, vraiment nul. J'ai mal dormi, ça a l'air.
Bon, ça a l'air. Mais vous avez l'air en forme.
Ah, ben je sais pas si le 3 va faire le mois, mais...
Oh, le coquin! Je dis en dehors des ondes, non, je dirais pas le 3 va faire le mois parce que ça commence à être un gros, gros cliché. Comme le mercredi, c'est le nombril de la semaine, on n'est plus capable.
Ah, ça, c'est pas un peu, je l'entends.
Oui, oui, dans les radios commerciales, c'est le nombril de la semaine. Et ceux qu'on a entendu rire, oui.
C'est parce que
je m'entends mal dans mes écouteurs, alors c'est pour ça que je répète. Oui, ceux et celles, parce qu'il y a Yvan et Monique que je suis bien contente de retrouver. Bonjour à vous deux.
Bonjour Hélène et bonjour aux auditeurs, auditrices.
Oui, alors je vous retrouve avec plaisir, mais je sais que vous avez fait de la radio cet été, mais racontez-nous un petit peu les grandes lignes de votre été, là, ce qui vous a fait le plus, pas rire, là, mais plus plaisir.
Qu'est-ce que tu veux?
D'accord, je peux commencer. Alors, ça a été un bel été. Je considère qu'il a fait relativement beau et donc c'était très agréable. Mais j'ai eu le plaisir de jouer avec nos petits-enfants qui sont maintenant établis à Montréal. Oh. Alors, ils ont habité toute leur enfance, en fait, de 8 ans, le plus âgé, et 6 ans, le plus jeune, à Dakar, au Sénégal. Et ils sont maintenant installés dans notre métropole. Alors, nous avons eu le plaisir de les avoir à la maison pendant plusieurs jours. Et ça a été fort agréable, mais je peux dire fort exigeant sur le plan de l'énergie.
Oui, parce qu'ils en ont dedans.
Ils en ont dedans, oui.
Mais ça nous énergise, ça nous épuise, mais ça nous énergise en même temps, hein, Monique?
Pardon?
Ça nous énergise, mais ça nous épuise en même temps.
Ah, exactement, ouais. Exactement.
Un mélange des deux.
Le plus âgé, Achille, qui a 8 ans, connaît tout du hockey maintenant.
Alors, oui!
Ah oui, il est même arrivé 10e dans un quiz qu'il y a eu à Eastman. Il y avait 150 personnes qui participaient. Et il y avait un enfant, puis c'était Achille.
Bravo, Achille! Et puis l'autre s'appelle comment?
Il s'appelle Anatole.
Anatole. Des prénoms qui commencent par la lettre A et qui sont quand même assez rares.
Oui, c'est vrai.
De nos jours. Alors, Yvan, vous allez avoir un nouveau partenaire pour parler hockey, Achille?
Oui, exactement. Oui. Tous les statistiques, il n'y a aucun statistique qui ne lui résiste.
Impressionnant.
Oui, et je serais curieux de savoir si Achille va vouloir jouer.
Ah ben, ils ont déjà un bâton de hockey, une rondelle, une balle, et je peux dire qu'ils sont les seuls qui jouent au hockey cet été.
Ah oui! Eh bien, c'est bien parti, et la saison commence bientôt quand même. Ils seront à l'affût, peut-être chez vous, en train de regarder le hockey, Monique, puisqu'ils sont maintenant tout près de chez vous. Alors, Yvan, vous, l'été, je sais qu'il y a eu du travail, mais il y a aussi des vacances. Là. Vous êtes parti aux Îles-de-la-Madeleine retrouver votre douce, Marie Lalande, pour ne pas la nommer.
Exactement. Alors,
il y a des coupures quand vous parlez. Là. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes encore...
Je vais peut-être me déplacer de bureau de bord.
OK.
Pour tous ceux qui rient de moi, parce qu'en principe, je suis à la retraite, oui, j'ai travaillé au recensement jusqu'au début août. J'ai été aux Îles-de-la-Madeleine du 6 au 16 et je travaille pour les élections provinciales présentement. Et Marie Lalande, ma douce, y est toujours aux Îles-de-la-Madeleine et elle viendra me rejoindre lundi.
Ah, est-ce que vous commencez à vous ennuyer?
C'est une autre forme de relation. On se parle à tous les soirs par Messenger. C'est comme si on commençait une relation.
Oh.
Je trouve ça vraiment intéressant.
Oui, intéressant et romantique, j'imagine.
Oui, absolument.
Alors, absolument. On n'entrera pas dans les détails, mais Yvan, je peux dire aux auditeurs qu'on va profiter de vous, mais pas longtemps ce matin. Vous allez nous quitter vers 10 heures, étant donné que vous êtes pris, parce que je pense que c'est votre choix quand même de travailler aux élections provinciales.
Oui,
et ça va être comme ça jusqu'au 5 octobre.
Oui, probablement que tout le mois de septembre, je vais faire des chroniques, mais pas de brèves ou peu de brèves. Alors oui, je vais vous quitter à 10 heures.
Merci d'être là. Et votre sujet, présentez-le nous, s'il vous plaît.
Oui, c'est un sujet vraiment intéressant. On parle beaucoup, très souvent, de la minceur chez les femmes. J'ai un article qui était dans la section Société de la presse dans fin de semaine dernière qui parle de la force avant la minceur. Et vous allez voir que l'un peut aller avec l'autre parfois.
OK. Alors, on sera à l'écoute. Et puis, Monique, vous allez nous parler de Jérôme Duprat, là, qui veut décloisonner la science.
Exactement. Alors, je vous annonçais, on nous annonçait au printemps qu'il était nommé le nouveau scientifique en chef du Québec. Alors, je vais vous décrire un petit peu en quoi ça consiste, cette responsabilité qui est quand même plus importante que l'on ne le pense.
À suivre. Et puis, qu'est-ce qu'on aura aussi? J'ai bien hâte de parler avec Maude Neveu-Villeneuve, Maxime Raymond et Xavier Cadieu qui ont créé un joli livre jeunesse. Je suis dans les tales de votre douce qui n'est pas là, alors j'en profite. Yvan. Radio Rosalie, publié chez Fonfon. Radio Rosalie, ça m'a vraiment interpellée quand j'ai entendu parler de ce livre-là parce que je suis une amoureuse de la radio et aussi parce qu'il est question de l'inauguration d'un parc Valérie Letarte, une chroniqueuse et animatrice qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais qui a marqué les esprits, une femme extrêmement cultivée. Et on parle de l'inauguration du parc à son nom, mais je ne pense pas que ça soit vrai, mais j'espère que ça va donner des idées à la mairesse de Montréal, pourquoi pas. Alors, j'aurai une entrevue en toute fin d'émission, dernière demi-heure d'émission. On va passer donc ce temps à parler de ce joli livre Radio Rosalie qui raconte l'histoire d'une petite fille, elle a 8 ans et elle aime la radio et son micro prend toutes sortes de formes, ça va de la banane à la brosse à cheveux. Je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, on y va avec une pièce instrumentale toute... désigné pour ce matin gris. Voici Café Crème.
Café crème, une pièce de Cielo Ardent.
À la une du Journal de Montréal de ce 3 septembre, doc spécialiste refusé au Québec, chirurgien orthopédiste de l'Allemagne qui parle français. Un chirurgien orthopédiste de l'Allemagne qui rêve de pratiquer au Québec se désole d'être incapable d'obtenir un poste depuis 6 ans, même s'il parle français et qu'il a la citoyenneté canadienne. Je veux déménager ici, ma famille veut revenir au Québec et même si ce serait moins payant, j'aime la qualité de vie, plaide le docteur Michael Nagefeld qui est travaille dans une clinique de Munich en Allemagne, originaire du Luxembourg. Il parle français couramment et 6 autres langues. Il est aussi marié avec une Québécoise agente de bord pour Air Canada. Ils ont un fils de 12 ans. Le chirurgien orthopédiste a aussi obtenu sa citoyenneté canadienne en 2019. Puisqu'il a suivi sa formation à l'extérieur du pays, le Collège des médecins du Québec lui offre 2 choix. Refaire sa résidence ici ou la voie rapide d'un permis restrictif. Il s'agit alors d'un parrainage de 3 mois avec une université et un établissement de santé pour évaluer ses capacités. Il a commencé ses démarches pour venir au Québec en 2020. Malgré des discussions avec les universités de Montréal, de Sherbrooke et de McGill, rien n'a abouti parce qu'aucun poste n'était disponible. Il a fait une approche pour un poste avec le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, mais rien n'est sûr et l'ouverture est seulement prévue dans 2 ans. Le docteur Nagefeld refuse de baisser les bras et il espère que d'en parler publiquement pourra l'aider à se faire connaître ici. C'est une sommité, vante son ami chirurgien esthétique de Longueuil, le docteur Pierre Courchêne. On ne peut pas s'en priver. Et selon la docteur Véronique Godbout, présidente de l'Association d'orthopédie du Québec, les orthopédistes militent depuis des années pour plus de postes en résidence. Leur nombre va prochainement tripler, passant de 6 à 21, mais seulement en 2029. À la une du Devoir, consensus et désaccord sur l'éducation, long texte d'Isabelle Porter, Marie-Michel Sioui, Sébastien Tanguay, Léo Mercier-Ross et François Carabin, tout en s'affrontant sur l'école à 3 vitesses, des partis en lice se sont accordés mercredi sur quelques idées en éducation, comme la lutte contre le décrochage et la pertinence de tenir des états généraux pour repenser le système en profondeur. Une usine de GNL gourmande en énergie éolienne pour alimenter leurs installations projetées à Bécomo, Marinvest et Kino Aski disent avoir besoin d'un parc éolien privé d'une ampleur record. Des turbines éoliennes totalisant 1700 MW seraient nécessaires pour alimenter les usines de gaz naturel liquéfié que l'entreprise norvégienne Marinvest et son partenaire autochtone Kino Aski Inc. veulent bâtir à Bécomo, selon les détails révélés par le groupe à la mi-août. Si les ambitions des promoteurs de Kino Aski GNL se concrétisent, un projet éolien d'une ampleur jamais vue au Québec servira à liquéfier du gaz naturel de l'Alberta. Et puis, à la une de la Presse Plus, ça va être l'enfer. C'est une citation, c'est la mairesse de Montréal qui le dit. Les mondiaux de cyclisme sur route ne seront pas qu'une partie de plaisir. En prime, les cols bleus comptent se mettre en grève durant leur tenue. On parle de la circulation en septembre, circulation infernale, événement qui se déroule du 20 au 27 septembre à Montréal et qui doit accueillir plus de 500 000 spectateurs ainsi que 1 000 athlètes a été décrit en avril par la mairesse Soraya Martinez-Ferrada comme l'un des plus importants événements internationaux au monde, mais mardi soir, la mairesse de Montréal a prévenu la population. Durant les prochaines semaines, ça va être l'enfer pour ceux qui se déplaceront dans les quartiers centraux traversés par les différentes courses cyclistes. Prévues mi-septembre, les rues vont être fermées, la rue Notre-Dame est fermée, Saint-Antoine est fermé, parc est fermé, a-t-elle dit, avant de tenter de rassurer une résidente. Madame Martinez-Ferrada répondait à France Martin, une dame à mobilité réduite venue dénoncer la suspension du transport adapté au centre-ville. Elle tenait à la prévenir que l'événement allait compliquer considérablement les déplacements. On va trouver une façon, mais je vous garantis que ce ne pourra pas être parfait, a-t-elle ajouté. est-ce que ça vous rappelle le film La moutarde me monte au nez? C'est Vladimir Cosma, excellent compositeur. Alors, c'est à vous, Yvan Deslauriers. Des femmes priorisent la force avant la minceur, un texte que vous avez trouvé le 30 août dans la Presse Plus.
Oui, sous la plume de Marissa Grosbuet. Et ça nous donne un point de vue très différent de ce qu'on a normalement quand on parle des corps et des corps féminins en particulier. Alors, je me lance. Tandis que la tendance chez les personnalités et sur les réseaux sociaux en ce qui concerne le corps des femmes est à la minceur ou même à la maigreur, des femmes décident plutôt de se donner la priorité, de donner la priorité aux muscles et à la force. Stronger, not smaller. Plus forte, pas plus mince. Est devenu un mantra populaire sur les plateformes sociales et dans les salles de sport. Alors, on commence avec Maude Parent, qui a longtemps été gymnaste de compétition. Puis, on peut rapidement se mettre en tête des corps des gymnastes. C'est souvent des petites dames qui sont très minces. Jusqu'à ses 18 ans, il fallait que sa composition corporelle se conforme à l'esthétique de son sport, qu'elle ne soit pas trop lourde et qu'elle soit petite. L'année suivante, elle a troqué son léotard pour une ceinture d'haltérophilie. Quand même un bon changement. Les restrictions n'étaient plus les mêmes, mais elle devait encore contrôler son poids parce qu'il y a des catégories en haltérophilie. Les restrictions n'étaient plus... elle devait contrôler son poids, donc aussi son alimentation, jusqu'à ce qu'elle cesse la compétition. Et là, elle dit, « J'ai arrêté de surveiller ce que je mangeais. J'ai commencé à prendre de la masse musculaire, à lever des poids plus lourds et à sentir ce que c'est d'être vraiment forte », raconte-t-elle, un sourire dans la voix. Maude a maintenant une pratique privée en entraînement. Et elle dit, ce que je mets de l'avant, c'est la femme forte. Et il faut rappeler que Maude Parent a fait des études en kinésiologie, là, c'est pas juste une tendance. Pour elle, elle dit, moi, ça a souvent été dans le cadre de la performance sportive. Mais outre ça, travailler ses muscles pour les femmes, puis moi j'ajoute pour toutes les personnes, dont les personnes âgées, c'est bon pour la longévité, la fonctionnalité, la santé mentale, pour réduire les risques d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires aussi. Les standards de beauté auxquels sont confrontées les filles et les femmes sont exigeants, observe toujours Maude Parent. Sur les réseaux sociaux, compte tenu de ses intérêts, elle voit passer des femmes musclées de tous les gabarits qui font rimer la féminité avec la force. Je trouve ça cool de voir ça mis de l'avant. Mais pas besoin d'être une ancienne athlète pour être de plus en plus exposée à des modèles de corps qui diffèrent de ce que la culture populaire promeut. À notre époque Ozempic, où ce médicament pour le contrôle du diabète a généré une recrudescence des corps maigres chez les vedettes, certaines personnalités publiques, comme l'actrice et chanteuse Hilary Duff, font contrepoids. Et je ne sais pas si c'est un jeu de mots là, dans l'article. Cette dernière fait ces temps-ci la promotion de l'application d'entraînement Ladder, comme échelle, en mettant de l'avant l'idée que le fait d'être une femme forte est bien plus avantageux que de se faire souffrir pour atteindre la maigreur. Elle dit, « Pendant des années, j'ai évité la salle de musculation, pensant que...
On a perdu quelques mots, Yvan. Pensant que
soulever des poids rendait trop massif. Est-ce que ça va maintenant?
Oui.
Okay. A déclaré l'artiste qui a grandi dans l'œil du public et a longtemps souffert de troubles alimentaires. Elle dit, il y a des années, mon entraînement s'est orienté davantage vers la musculation et tout a changé. Ma façon de me sentir, de bouger, de dormir et mes performances dans tous les domaines de ma vie. Bien qu'il s'agisse d'une campagne publicitaire, le message véhiculé résonne auprès des internautes sur Instagram ou sur Reddit. Nombreuses sont celles qui s'approprient le mantra et qualifient Hillary Duff de modèle qui apporte un vent de fraîcheur dans une culture où la minceur est glorifiée. Et là, on va parler avec Maude Martinez, qui, elle, est diététiste nutritionniste chez une compagnie qui s'appelle Logo, L-A-U-G-A-U, Nutrition, dont l'approche est axée sur les troubles alimentaires. Et elle dit, « Je le vois depuis quelque temps dans ma pratique, des femmes veulent être plus fortes physiquement et capables de faire des tâches quotidiennes. » Elle ajoute, « La représentation est importante, tout comme lorsqu'on voit plus de diversité corporelle, de positivité associée au fait d'être forte, comme dans le cas de Hillary Duff. » Dans son bureau, Mme Martinez voit ainsi certaines personnes qui souhaitent renverser le pouvoir de leurs troubles alimentaires, que les troubles alimentaires ont sur elles. En se nourrissant, en soulevant des charges, leur force augmente clairement. Elles se sentent capables de plus, ça aide pour l'estime de soi. Viser une esthétique en particulier peut causer un risque de glissement vers quelque chose de moins positif, ajoute-t-elle, rappelant qu'une bonne alimentation et des efforts au gym n'égalent pas un type de corps en particulier. On peut être très forte sans avoir l'air de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Beaucoup de corps, en guillemets, forts, exposés en ligne, correspondent aux standards de beauté actuels où la figure doit être svelte. Et là, on va parler avec Mme Mylène Aubertin-Leheudre, qui est professeure de kinésiologie des sciences et de l'activité physique de l'UQAM. Elle dit, dans la vie, il faut du gras. C'est important pour la santé reproductive, osseuse et même mentale, puisque ça permet la création de certaines hormones. Et le muscle est aussi nécessaire pour la vitalité ou l'humeur, entre autres. L'équilibre demeure nécessaire pour la santé mentale comme pour la santé corporelle, puisque trop forcé ou mal forcé peut entraîner des blessures. De plus, certaines personnes, génétiquement, auront probablement toujours le même type de corps, mais ce qu'elles en font, activité physique, alimentation, hygiène de vie, est ce qui compte le plus. Alors, Mme Leheudre, termine en disant, un corps en santé et un corps dans lequel on accepte son image corporelle, ce n'est pas la même chose. Les tendances empêchent d'accepter que tous les corps sont différents. Mais l'idée de la force, qui en soi n'est pas un type de corps, a un potentiel positif pour la psyché des femmes et même des hommes, perpétuellement insatisfaites de leur silhouette, puisqu'elles ne se concentrent pas autant sur l'image. L'acceptation de soi, être bien dans sa tête, devrait être la priorité. Alors, moi, c'est un article qui m'a un peu bousculé. Je suis un programme d'entraînement qui implique de la musculation et c'est vrai que ça m'a beaucoup donné confiance. Je peux encore tirer des masses assez lourdes, à mon avis, à tout le moins. Et c'est vrai que ça a beaucoup d'effets sur la façon dont on se sent. Alors, puis on n'est pas obligé d'aller au gym pour soulever des poids. Dans la vie de tous les jours, on peut le faire.
Oui, merci beaucoup, Yvan. Je vous souhaite une belle journée.
D'accord.
Jouer à dépasser. importe à combien.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Malgré le temps qui passe, j'espère. Pourquoi je gagne et puis je perds? Comme un enfant à qui l'on raconte une histoire, je dois le croire. Malgré les hauts, les bas, je sais. M'accorder un dernier essai. Je vois la vie me faire un signe. J'ai lutté pour en être digne. Et je crois que tout va bien. Et qu'importe à qui les torts, on finit par tomber d'accord. Parfois j'y vais un peu fort, je me méfie de l'eau qui dort. Et si c'était un coup du sort, malgré les doutes, je prends sur moi. Tu sais les coups, je ne les sens pas. Je me relève, je ne tremble pas. Je vis, je vois, ne t'en fais pas. Et je crois que tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien, une chanson de Gims.
Et on joint Monique Kirouac, qui est en ces beaux cantons de l'Est. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Monique, il y a quelque temps, vous aviez souligné la nomination de Jérôme Duprat comme nouveau scientifique en chef du Québec. Et pour la rentrée, vous avez retenu un article de Marie-Lise Rousseau qui s'intéresse à Jérôme Duprat.
Oui, tout à fait. Alors, c'est tiré de la dernière édition du Québec Science. Alors, on le sait, hein, il y a des centaines de milliers de fans des deux côtés de l'Atlantique qui ont applaudi pendant les 25 dernières années Jérôme Duprat, entre autres, parce qu'il officiait comme bassiste du groupe le plus populaire du Québec. Alors, à travers leurs chansons résolument engagées, ben, les Cowboys Fringants ont incarné, semble-t-il, la conscience environnementale du Québec aux yeux du public. Le succès d'une chanson intitulée 8 secondes dénonçant la marchandisation des ressources naturelles n'est qu'un exemple parmi d'autres. Alors, entre les tournées et les enregistrements d'albums, ben, Jérôme Duprat, il n'a pas chômé, Hélène. Il a réalisé rien de moins qu'un doctorat en géographie, puis un post-doctorat en biologie, avant de devenir professeur, chercheur au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Et là, il a mené ses travaux en économie écologique, en géographie environnementale, en aménagement du territoire et en adaptation au changement climatique. Alors, comme on le soulignait en présentation, à 46 ans, ben il fait prendre un nouveau tournant à sa carrière, l'artiste et chercheur entame un mandat de 5 ans à titre de scientifique en chef du Québec. Et s'il succède à Rémi Quirion, qui occupait ce poste depuis sa création, et ce, en 2011. Le scientifique fringant ne prend pas à la légère ce nouveau rôle essentiel et prestigieux. Il compte profiter de son nouveau statut pour outiller la classe politique et, soulignons-le, sensibiliser la population aux nombreux apports positifs de la science. C'est un peu pour ça que j'ai retenu cet article, étant un peu votre représentante de la vulgarisation scientifique.
Ah oui, un peu, même passionnément, je dirais.
Oui, oui, passionnément. Je pense que c'est vrai, Hélène. Mais on peut se demander, ben, c'est quoi les responsabilités d'un scientifique en chef? Alors, M. Duprat nous dit qu'il y a deux rôles qui sont enchâssés dans le poste. D'abord, il est au service du gouvernement à titre de conseiller en transmettant ses questions à la communauté scientifique. En fait, c'est un rôle d'intermédiaire, en quelque sorte. Le deuxième est de diriger les fonds de recherche du Québec, ce que l'on appelle le FRQ, qui est l'agence subventionnaire pour soutenir la recherche. Chaque année, environ 330 millions de dollars sont distribués à cet effet. Ça peut être à des professeurs-chercheurs, mais aussi à des étudiants au cycle supérieur. Il a aussi envie de développer une troisième fonction qui est transversale, celui d'engager un dialogue entre toutes les parties prenantes de la science, de la société, pardon, et l'écosystème scientifique pour montrer que la science est partout et qu'elle est au cœur de l'avenir du Québec. Pour Jérôme Duprat, ce rôle, c'est une suite logique à son engagement professionnel, mais aussi ses passions. Sa vie en musique lui a permis d'engager un dialogue avec la population du Québec. Dans sa vie scientifique, il était un praticien de la recherche en supervisant des étudiants, en développant des partenariats et en amenant la science en milieu entrepreneurial. Ses expériences pertinentes convergent, selon lui, vers le rôle de scientifique en chef, une fonction qu'il a en très haute estime. Quand il a su que Rémi Quirion, qu'il connaît d'ailleurs assez bien, quitterait le poste, bien, il a vu là une très belle occasion. C'est sûr que M. Quirion laisse un très bel héritage à M. Duprat. D'abord, il était un bâtisseur. Il a su définir le poste et le faire évoluer. Jérôme Duprat veut pouvoir consolider ce que M. Quérillon a mis sur pied, mais aussi le développer à sa façon, en prenant en compte les défis d'aujourd'hui. Il pense, par exemple, aux attaques envers l'intégrité de la science qui sont présentes au Québec avec la désinformation. Il y a aussi des occasions comme l'intelligence artificielle. On le sait, hein, au Québec, on est un des pôles d'excellence en la matière. Il faut s'assurer de bien comprendre en quelle direction on va et de suivre son rythme de développement très rapide pour profiter de ses retombées positives. M. Duprat s'est également fixé, il a ciblé trois priorités pour ce mandat. Et je vous les décris. La première priorité est de consolider toute l'infrastructure autour de la science et de la recherche au Québec. Ça peut paraître conservateur, mais à une époque où les budgets se rétrécissent, comme peau de chagrin, il faut s'assurer que ce qu'on a construit puisse continuer à se développer. Ça fait partie des acquis sur lesquels il faut bâtir. C'est d'autant plus vrai que la stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation est en renouvellement. Il faut donc s'assurer que la prochaine version fasse une part belle à la science fondamentale et à la recherche. La deuxième priorité, c'est sur le plan économique. En matière de retombées, nos chiffres sont pas mal moins bons. On développe beaucoup de savoir, mais il se déploie et se commercialise à l'extérieur de nos frontières. Il est important de faire en sorte que la science et la recherche puissent bénéficier à notre économie à court et à long terme. L'autre priorité, très chère à son cœur, eh bien, c'est la jeunesse. D'abord, il faut créer des conditions gagnantes pour que les jeunes poursuivent leur parcours d'études supérieures en sciences et se déploient à leur plein potentiel. Les formations sont solides, mais les conditions sont précaires parce que le montant des bourses ne permet souvent pas de consacrer de longues périodes à la recherche. Il faut aussi revoir la façon d'entrevoir des carrières. La science et la recherche, ce ne sont pas que des métiers universitaires. On peut se réaliser dans la fonction publique, en entreprise ou encore dans des perspectives associatives. Il faut aussi soutenir la jeunesse dans les écoles primaires et secondaires, parce que je pense que c'est là qu'on développe son goût pour la science. C'est important dès cet âge de développer un réflexe scientifique, une perspective critique et des passions. La cohabitation de la science, de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée pose cependant un défi. Aujourd'hui, plus de 80% du financement du FRQ est dirigé vers la recherche libre et fondamentale. C'est inscrit dans la loi. Mais dans un contexte budgétaire difficile, la recherche fondamentale est souvent la plus vulnérable. Ses retombées se mesurent en décennies plutôt qu'en trimestres. Et il est tentant de privilégier ce qui produit des résultats visibles à court terme. Or, il n'y a pas d'innovation appliquée sans le socle des connaissances que bâtit la recherche fondamentale. En conclusion, il faut dire que Jérôme Duprat nous dit que sa position a toujours été basée sur ce en quoi il croit. La science. Il croit en notre avenir collectif, il croit en la protection de la planète et toutes ces valeurs sont directement transférées dans ce rôle. Ce poste, il ne va pas du tout comme une muselière, mais plutôt comme une autre forme de porte-voix. Alors, on sera certainement, Hélène, attentif et attentive à cette voix.
Oui, on se sent entre bonnes mains avec lui.
Oui, oui. Quelqu'un qui a su concilier comme ça une vie artistique et scientifique, je crois que c'est de bon augure.
Vous avez parlé de 8 secondes et Cowboy Fringant. On l'écoute. Merci, Monique.
Toutes les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce qu'il n'y a pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes se génèrent des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse et on se calisse bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Hey! Toutes les 8 secondes, un nouveau cancer qui nous ronge. Ou qui devient marchandise, aqueduc qu'on privatise et gouvernement complice qui improvise. À Montréal, dans les souterrains, ils pompent l'eau qui nous appartient. Paye des pinottes pour le produit et comme ils ont le monopole, font plus de profit que les compagnies de pétrole. Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. On nous met devant les faits accomplis. Ils jouent la terre au Monopoly. Quand ils se seront appropriés les nuages, les oiseaux, les glaciers, les pions n'auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même plate à dire, mais ça a l'air que c'est ça le du problème. Il ne restera que 8 secondes avant la fin de ce monde. On repensera aux genre humain qui, à cause de la peau du gain, auront amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Encore plus de colère qui monte quand je vois mon grand pays d'eau être mis à sac par des salauds qui souhaitent la vie assis dans leur tour à bureau. Dans ce Québec de forêt d'or bleu, ces richesses doivent devenir des enjeux. Portons les fesses des décideurs et devenons des précurseurs citoyens. L'avenir commence à se tordre.
Propos sombres sur musique joyeuse. On y va avec vous, Monique. Vous êtes toujours avec nous pour des brèves cette fois. Grande question. Question intéressante, je trouve. Notre posture peut-elle avoir une influence sur notre humeur? Et en posant la question, je me redresse les épaules.
Oui, vous avez, c'est, oui, on fait bien attention après avoir lu ça et j'espère que ce sera le cas pour la majorité des auditeurs et auditrices. En fait, l'article nous dit, ça a été publié ça dans la presse du 19 août dernier, c'est Florence Dancause qui nous décrit le fait. Alors, on adopte souvent une position voûtée dans notre quotidien, entre autres en travaillant à l'ordinateur ou même, et là, ça c'est 100% des gens, je pense, en regardant notre téléphone cellulaire. Mais nos émotions et notre capacité à prendre des décisions sont-elles influencées par notre posture? Ben, une étude de l'Université McGill, pardon, s'est penchée sur la question. L'auteur en chef, Jorge Harmony, et Soren Wainio-Téberge, qui a collaboré à l'étude, s'intéressent aux liens entre le corps, plus spécifiquement la posture, et les émotions depuis quelques années. Alors, il y a de nombreuses recherches qui se sont concentrées sur l'influence de la posture sur notre tempérament. Ça demeure quand même, Hélène, il faut le souligner, là, un champ d'études controversé. Hein. Et dans sur l'influence de notre posture, dont une immense popularisée en 2012, après qu'une de ses autrices l'eut présentée dans une conférence TED. Amy Cuddy a exposé sa théorie de la posture de pouvoir, de power posing. Ses recherches ont démontré que lorsque les gens adoptent une posture ouverte, ils se sentent plus puissants et prennent davantage de risques que ceux qui adoptent une posture contractée. Or, des critiques sur la posture de pouvoir ont émergé après que les effets liés aux hormones n'ont pas pu être répliqués. De récentes méta-analyses ont toutefois révélé que notre état d'esprit peut indéniablement être influencé par la position de notre corps. Donc, si on revient à notre équipe de recherche de l'Université McGill, bien pour mener ces recherches, l'équipe a ainsi essayé d'éviter certains écueils de précédentes études. D'abord, la posture prescrite aux participants a été influencée plutôt par l'environnement plutôt que par une demande verbale. Ceux-ci étaient devant une tablette à la hauteur des yeux ou posés à plat sur un bureau bas. Qu'ont-ils remarqué, les chercheurs? Bien, ceux qui avaient une posture droite ont fait état d'une plus grande fierté que les autres après avoir accompli des tâches sur une tablette. La question de l'angle d'inclinaison du cou semble pertinente, pointe l'auteur principal de l'étude. Ceux avec la posture droite, mais avec le cou plus incliné, ont obtenu sensiblement les mêmes résultats que ceux dans la posture repliée. Alors, adopter une posture droite serait-il un bon moyen pour transformer notre vie? Georgie Harmony tempère les ardeurs. Ça ne va pas vous garantir le succès. Ça ne va probablement pas vous permettre de gagner plus d'argent, mais c'est quelque chose qui mérite d'être plus exploré. Le chercheur approfondit déjà un autre thème, le lien entre notre posture naturelle et notre personnalité. Peu importe, Hélène, je pense que se tenir droit, les épaules bien droite, nos omoplates qui se rejoignent presque à l'arrière, là, ben on se sent,
ça donne confiance.
Plus confiant, ouais. Et prêt à affronter n'importe quel défi.
Oui, avec détermination. Ils ont bien fait de se pencher sur la question. Vous l'avez lu vous-même, Monique, ce jeu de mots, oui. Qui est peut-être volontaire ou involontaire, mais ils ont définitivement penser en dehors de la boîte.
Oh mon Dieu, eh bien oui. En dehors de la boîte ou hors de la boîte, ouais. Hors du cadre ou en dehors du cadre. Je pense qu'on entend plus souvent en dehors que hors ouais. même.
Alors, ça nous amène à votre capsule linguistique. Est-ce que ça se dit, ça?
Ben c'est un anglicisme, encore ouais. une fois. On utilise en fait la locution « to think outside the box » mm-hmm. pour exprimer le fait d'avoir des idées audacieuses qui ne correspondent pas toujours aux idées reçues. En français, on a toujours de belles suggestions pour suppléer le mauvais usage. Alors, lorsqu'on fait preuve d'audace en exprimant des idées originales, on dira plutôt qu'on est novateur ou encore innovant. On peut aussi dire qu'on a des idées avant-gardistes ou novatrices. Et quand une personne propose des idées novatrices, on pourrait tout simplement dire qu'elle sort des sentiers battus.
Ah oui.
Alors voilà de belles propositions.
Oui, merci pour toutes ces belles propositions, cette chronique, Monique. Et je pensais aussi, on l'entend souvent, on a déjà joué dans ce film-là. Je ne sais pas si c'est un anglicisme.
On va vérifier ça, okay. Hélène. Je vous reviens avec ça la semaine prochaine.
Parfait. Ben, passez une belle journée. À la semaine prochaine. Merci.
À la semaine prochaine.
Elle est enfant. Elle est avec moi. Il est là. Il est drôle comme des yeux. Il est comme toi.
La seule et unique Grace Jones et la chanson « Part ». Merci d'écouter Au quotidien. On est ensemble jusqu'à 11h. À venir, une entrevue avec Maude Neveu-Villeneuve, Maxime Raymond et Xavier Cadieux qui viennent nous présenter le livre « Radio Rosalie » publié aux éditions Fonfon. New York a décidé d'interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle aux élèves des écoles publiques de la ville jusqu'en 8e année, l'équivalent de la 2e année du secondaire au Québec. C'est ce qu'a annoncé mercredi son maire Zoran Mamdani, confirmant des informations transmises plus tôt à la presse. La ville instaure un moratoire d'un an applicable pendant l'année scolaire 2026-2027 sur l'utilisation de l'IA générative par les élèves de maternelle à la 8e année.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je passe dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots. Comme je t'aime, faut que je passe dans ta radio. Faut que je passe dans ta radio. Dans ma voix, tu scannes les moindres mystères de ce tube FM éphémère. Cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Et pour que les ondes de cette chanson se glissent dans ta maison, faut que je passe.
c'est le titre de la chanson Dans ta radio de M.
Non, le titre, c'est Dans ta radio.
Dans ta radio, d'abord, excusez-moi.
Et on parle du livre jeunesse, non pas radio, mais Radio Rosalie, avec Maude Neveu-Villeneuve, Maxime Raymond, Xavier Cadieux, publié aux éditions Fonfon. Et je ne suis pas le public cible, mais j'ai été complètement charmée par cet album. Bonjour à vous trois.
Salut.
Allô.
La belle visite en studio, je suis contente de vous avoir avec nous. Est-ce que les studios radio sont des lieux que vous connaissez bien, dans lesquels vous êtes à l'aise?
Ben moi, à part des amis qui...
Maxime?
Qui oui, salut. à part des amis qui sévissaient à CISM, puis que, où donc je suis allé un peu... c'est encore un lieu plein de mystères que j'aime bien visiter.
Oui, et puis vous, Maude?
Moi, j'avoue, mon père était chroniqueur à l'émission de Marie-France Bazot quand j'étais petite.
Ah oui?
Oui, donc il m'amenait des fois en studio.
Fait que j'ai père, un peu
mon Benoît Villeneuve, il était chroniqueur scientifique.
OK.
Puis il venait faire de la vulgarisation astronomique. Puis c'est ça, des fois, il m'amenait en studio avec lui. Oui, fait que je connais quand même les studios de radio depuis l'enfance, mais j'en ai pas fait professionnellement.
Non. Et, mais vous êtes habituée à faire des entrevues puisque vous êtes autrice, vous travaillez aussi en tant qu'éditrice?
Oui, quand même. Je suis même déjà venue, d'ailleurs, dans ces studios-ci deux
Mathieu
fois avant aujourd'hui.
De la tête. Oui. Oui. Bon, je n'étais point au courant. À propos de quoi?
Mon livre Les différences invisibles, publié chez Éco-Société, à l'émission d'Élisane, dont j'oublie le nom de famille.
Pèlerin.
Voilà.
Hein, c'est ça?
L'émission s'appelait Sans détour.
Oui, ou mais détour. Le nom de famille d'Élisane.
Pèlerin.
Oui. Et bah, c'est toujours possible de retrouver cette entrevue-là sur notre site Internet, canalem.vusevoix.com. Et Xavier, qui ne parle pas jusqu'à maintenant, vous êtes poli, l'illustrateur de Radio Rosalie, vous, la radio.
Ça m'est déjà arrivé. J'ai les mêmes amis que Maxime, probablement à la même émission à CISM. Donc, oui, c'est déjà arrivé.
Alors, qui a eu l'idée de créer Radio Rosalie?
Maude et moi, dans la vie secret, on est un couple à la base.
Secret de polichinelle.
Secret de polichinelle. puis un running gag à la maison. Maude écrit, Maude c'est l'autrice de la maison, moi je suis éditeur. Puis,
oui, vous avez co-fondé
les éditions de ta mère, exactement. Puis souvent, quand il y a quelque chose de cocasse qui se dit à la maison et tout, la blague c'est ça ferait un bon livre pour enfants. Idéalement, cette blague-là est utilisée quand ça ferait pas un très bon livre pour enfants, ce qui me fait encore plus rire. Mais là, on imaginait notre fille, notre plus jeune, qui parle beaucoup, on l'imaginait à la radio, comme si elle avait une émission, vu qu'elle n'arrête jamais de parler, fait que c'est un bruit de fond constant, en plus de la radio qui joue toujours chez nous, à peu près. Puis on a imaginé la blague de la fin qui a fait une entrevue, puis que même après qu'elle soit couchée, elle est encore à la radio. Désolé d'avoir divulgâché. puis là, on a fait « Ah, c'est vraiment drôle! » Puis on a fait « Attends, ça ferait vraiment un bon livre pour enfants. » Puis Maude, elle a dit « Ben moi, je vais l'écrire. » Je vais « Go, écris-le. » Je Maude prend la balle.
Oui, j'en ai écrit une première version, mais après ça, je suis revenue voir Maxime, parce que je disais « Ben écoute, à la base, c'était ton idée, tu sais, c'est toi qui a eu l'idée de la blague, puis tout ça. Fait que je pense que j'aimerais ça qu'on le fasse ensemble. »
C'est
là,
une première vous travaillez ensemble?
Oui, ben d'habitude, Maxime est mon éditeur. Quand je publie mes romans pour adultes aux éditions de ta mère, c'est Maxime mon éditeur, puis il fait très bien ça. Fait qu'on a une bonne relation de travail déjà.
Oui. Mais une bonne relation de couple aussi. Ben, on n'entre pas dans les détails.
Oui, aussi. aussi, mais c'est ça. Donc, pour moi, c'était comme naturel de me dire comme, ah, ben on va l'écrire ensemble parce que on partage
aussi,
l'idée.
C'est aussi que t'es une autrice très sérieuse, puis ça prenait...
ça prenait quelqu'un qui faisait des blagues.
Ça prenait des blagues.
C'est pas votre premier livre jeunesse,
non, c'est mon troisième.
Ah oui, troisième.
Ouais,
est-ce que c'est pas la première fois non plus que vous publiez chez Fonfon?
Non, il y a eu Simone sous les ronces chez Fonfon en 2019.
Oui.
Puis je t'écris de mon lit aux 400 coups.
Vous auriez pu, je ne sais pas, publier aux éditions de ta mère, mais vous ne faites pas du tout
on
le livre
jeunesse,
non?
Puis
même
de toute
si
façon,
vous êtes un peu coquin-taquin.
J'aurais pas voulu qu'on... Je trouve que ça fait beaucoup de s'auto-publier, de se travailler ensemble. Il manquait un garde-fou là-dedans puis une expertise que je n'ai pas en livre jeunesse. Fait que non, ça n'a jamais été dans les plans de le faire. Là.
Bon, hey, Fonfon, ça a été un choix naturel? Les éditions Fonfon?
Oui, ben j'ai beaucoup aimé travailler avec l'équipe de Fonfon pour Simone sous les ronces. Puis on connaît bien Véronique, qui est la propriétaire de la maison d'édition depuis longtemps. Fait que oui, leur collection Histoire de rire nous fait beaucoup rire en général. Fait que donc, on voyait bien le livre là-dedans.
Mais on l'a vraiment envoyé sans prétention. Là. C'était un peu, hey, on a fait ça, on l'écrit en deux soirs. Si ça marche, ça marche. Puis Véronique, c'était plus comme, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose là? Mais c'était pas, on n'était pas si sûr de notre coup que ça quand on l'a envoyé.
Non, ça nous faisait rire, nous. Mais on se disait, est-ce que ça va faire rire d'autres gens?
Ouais. Mais souvent, quand ça nous intéresse ou quand ça nous fait rire, il y a d'autres personnes qui sont interpellées. Là.
Si vous saviez le nombre de choses qui me fait rire, puis je suis le seul à trouver drôle.
Ah, oui,
j'ai de la misère à être d'accord avec cette affirmation.
Comme quoi, par exemple?
Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'exemple précis, mais oui, je peux rire. Oui. Je suis mon meilleur public souvent. Donc,
bon, vous êtes un être particulier, peut-être.
Non, je
n'ai pas jusqu'à... Un humour unique, mettons.
Oui. Douteux.
Alors, Radio Rosalie, c'est l'histoire de Rosalie qui a 8 ans, qui s'amuse à faire de son quotidien une émission de radio jusqu'à ce que la réalité rattrape la fiction. Vous avez un petit peu mentionné la chose sous une autre forme. Maxime, parce qu'on ne voulait pas dévoiler le punch, mais on le dévoile un peu quand même.
Scandale.
Franchement, on va arrêter l'entrevue.
Enlevez
ici.
Enlevez mon
là.
Nom sur le livre.
Et Xavier, vous êtes arrivé dans le décor en tant qu'illustrateur. De quelle façon ça s'est passé pour vous?
Je ne sais jamais vraiment comment les gens choisissent de me faire illustrer des choses, mais souvent, il y a quelqu'un que je connais. Là, je connaissais à peu près tout le monde impliqué là, sur le livre.
Ah oui?
J'avais illustré précédemment André sur une drôle de piste. Dans la petite collection...
Les petits romans, là.
Les petits romans.
La collection Sorbet.
Sorbet!
Ah, c'est charmant comme
nom. La collection Sorbet chez Fonfon. Donc, je connaissais tout le monde chez Fonfon. Je connaissais Maxime, Maude, juste parce que... parce qu'on travaille dans le milieu du livre, et puis...
On dit que vous êtes un BDiste montréalais connu pour votre trait mou.
Oui.
Et votre humour absurde. Ça veut dire quoi, ça, un trait mou?
Je suis pas certain. Ça, c'est moi qui ai écrit ça parce que j'étais obligé d'écrire quelque chose.
Mais je comprends, il y a une élasticité dans tes personnages. Ouais. Fait que j'irais avec, comme si je voulais trouver un spin positif à Trémou, ça serait ça. Ça serait comme des personnages qui ont essayé ça. Il y a pas beaucoup d'angle droit dans ces os-là. Comme mm-hmm. tout le monde.
Ouais.
On dirait toutes des mopettes un peu. Il y a quelque chose de marionnesque dans tes personnages.
Oui.
Et l'univers de la radio, est-ce que c'est comme un défi d'illustrer cet univers-là qui est sonore avant d'être visuel?
Oh là là, non. On dirait que... Ben, je visualise beaucoup là, ce qui se passe. On dirait qu'avec l'expérience que j'avais sur les pires moments de l'histoire...
Oui, le balado de Charles Beauchamp.
C'est ça, de passer du trait audio puis du texte... très autosuffisant, puis essayer de trouver justement là, qu'est-ce qu'on illustre là-dedans. On dirait que j'arrive là-dedans, je ne me suis jamais posé la question. Rosalie, elle parle, puis je vois tout ce qui se passe. De toute façon, puis avec Maxime et Maude, on avait quand même là, décidé un peu qu'est-ce qu'on allait voir dans l'image, mais je vois les images tout le temps, là, donc j'écoute la radio, puis
Ça donne bien, vous êtes illustrateur.
Oui, ouais. c'est
pratique.
Oui.
On a beaucoup travaillé aussi, quand on écrit le scénario, là, tu sais, moi, je suis allé naïvement, parce que j'avais jamais fait de scénario, de scénario, je sais même pas si c'est le bon mot, mais de texte, de livre jeunesse comme ça, mais on a vraiment bâti des unités de lieu sur les deux pages. Fait quand on a donné ça à Xavier, ça y a permis... Le lieu était clair pour chaque situation, chaque moment de radio... avec des ellipses entre chaque moment de la journée.
Ouais.
La scène était bien campée, je pense, pour donner le maximum de jus à Xavier pour pouvoir illustrer. T'sais. Donc, que ce soit la cour d'école, le terrain de baseball, la classe, c'est des lieux vivants qui sont dans lesquels Xavier a eu du plaisir, je pense.
Mm-hmm. Absolument. Vous avez nommé tous mes lieux préférés de l'école.
Comme la cour de récréation.
La cour de récréation, le terrain de baseball, la bibliothèque.
Ah oui.
La chambre de Rosalie aussi. Quelque chose de super, super le fun d'étaler toute sa personnalité comme en un beau bordel par terre, là, tous les objets que j'ai plantés, tous les médailles.
On parle d'un look... vintage, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qualificatif-là?
Je ne suis pas d'accord.
Ouais.
visuellement, je fais ce que je fais du mieux, avec le plus d'efforts. Je mets le plus que je peux, puis il arrive ce qui arrive. Quand même qu'au départ, je déciderais de faire quelque chose de précis. Tous ces beaux projets-là prennent de champ. Puis je peux pas mal juste faire du Xavier Cadieu.
Notre intention, tu sais, avec Xavier, notre éditrice voulait pas qu'on fasse une bande dessinée, mais on a poussé le concept de faire une bande dessinée sans que ça en soit une le plus loin possible, parce que Xavier, son langage, c'est la bande dessinée. Moi, je suis un méga fan, moi aussi, de bande dessinée. On aime ça beaucoup. Mais lire des bandes dessinées aux enfants, c'est chiant quand il y a plusieurs personnages. Là, il faut que tu fasses des voix. Puis là, les enfants se rappellent des voix. Toi, tu t'en souviens plus.
Ah oui, puis il faut suivre les bulles des différents personnages. Ouais, non,
donc,
j'adore ça.
Ouais. mais donc, on y a quand même dit pousse le plus loin possible dans. Et comme si c'est une grosse, grosse case à chaque fois. Puis, mais donc, son monologue est avec des bulles. Donc, il est vraiment allé loin dans son propre langage. Il ne s'est pas adapté à un langage plus stiff d'album. Il est allé dans quelque chose de très mouvant qui est... Fait que les codes de la bande dessinée, pour moi, sont partout dans le livre puis sont intégrés au texte. Puis je trouve que comme c'est ça la saveur que Xavier a amené le plus, je pense.
Et qu'est-ce que la radio vous permettait de raconter?
Wow, en fait, la radio, c'était l'idée de la parole, essentiellement. Là, à la base, là, c'est l'idée de la parole. C'est Rosalie qui a besoin de parler de tout ce qu'elle voit et de tout ce qu'elle vit. Puis les adultes autour d'elle ne vont pas nécessairement toujours embarquer dans son imaginaire de radio. Certains oui, certains non. Mais ça nous permettait de parler de ça, de cette espèce d'imaginaire constant des enfants qui sont en train de se construire un monde, là. Moi, quand j'étais petite, j'enregistrais des émissions de radio sur mon magnétophone Fisher-Price dans ma chambre. Là.
Oui.
Puis je finissais par « Ici mon neveu Villeneuve » pour Radio-Canada. Puis je me prenais très au sérieux. Puis donc, c'est ça, c'est l'idée d'avoir un public, puis de commenter ce qu'on voit. Puis je pense que c'est comme si, à cet âge-là, Rosalie, elle n'avait pas développé son filtre encore.
Oui, Rosalie, qui est une femme, une fille libre. Vous dites que les parents ne la suivent pas nécessairement dans tout ce qu'elle propose, mais il y a un respect de sa personnalité allumée,
originale. Oui, mais sa prof, par exemple, la renvoie se rasseoir à sa place. Oui,
parce qu'elle pose une question peut-être un peu malaisante.
Oui, c'est ça.
Mais je pense que les parents sont surtout fatigués, puis le petit frère a l'air encore pire. Donc, je pense qu'il y a une tolérance. Oui. Mais il y a quelque chose aussi aussi d'explorer le flux de conscience qu'on sait qu'en littérature, on a vu beaucoup dans les littératures plus complexes, mais il y a quelque chose où j'adore les enfants qui, tu sais que dans quelques années, ils vont réfléchir dans leur tête et ils vont avoir une pensée complexe puis critique, mais quand ils sont pas rendus, c'est qu'ils sont pas rendus à le faire juste dans leur tête. Il faut que ça sorte comme à l'oral, fait que c'est beaucoup, beaucoup de paroles, pertinent, pas pertinent, puis la radio nous a permis c'est un peu un prétexte pour cadrer cette expérience-là des enfants qui doivent, pour expérimenter leur monde, le décrire à haute voix.
Et ce qui m'a beaucoup touchée, entre autres, mais ce personnage de Rosalie, j'allais dire, je me suis identifiée parce que je suis une amoureuse de radio depuis longtemps. Et moi aussi, j'ai fait comme vous, Maud, j'enregistrais des émissions où je me prenais pour une animatrice qui s'appelait Agathe, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai réalisé mon rêve, finalement, de devenir animatrice radio. Et il y en a une qui m'a beaucoup inspirée. Il s'agit de Valérie Letarte. Valérie Letarte, qui est décédée à l'âge de 47 ans, c'était en 2001. J'ai suivi sa carrière comme animatrice à 275 Allo, chroniqueuse culturelle. Elle était formidable. Et vous en parlez d'elle à travers un parc qui est inauguré en son hommage.
Oui, nous, on l'a connue surtout à 275 Allo, je dirais.
Oui, puis émission pour enfants.
Oui, une émission pour enfants qu'elle animait où, justement, les enfants pouvaient poser des questions. Puis bon. Puis quand on a eu l'idée d'avoir un événement où Rosalie pourrait faire un vox pop, pourrait rencontrer des gens, on a imaginé l'inauguration d'un parc. Puis là, ça nous paraissait comme évident qu'il fallait que le nom du parc soit significatif. Étant donné que on parlait de radio, ben ça nous a fait penser évidemment à les animatrices de radio célèbres. Puis ben on est allé vers Valérie Letarte puisque ben justement étant décédée très jeune. Puis
on veut un parc Valérie Letarte pour vrai
oui,
là.
Oui, j'aimerais ça. Mais oui, on l'a vraiment inventé pour l'occasion, il n'existait pas. Mais pour nous, c'était une manière de rendre hommage. Là,
oui, à cette bel hommage. Et c'est important aussi de transmettre des connaissances en plus de raconter l'histoire, parce que vous parlez de femmes qui ont marqué la radio, vous expliquez comment fonctionne le son aussi.
Oui, à la fin, dans les livres chez Fonfon, il y a toujours une petite page pédagogique à la fin. Puis donc, pour cette page-là, ce qu'on a choisi de faire, c'est de rendre hommage aux femmes pionnières de la radio. Puis, ben, il fallait aussi, on se disait, il faut expliquer comment ça marche, parce que pour les enfants, c'est très abstrait, je pense, même pour les adultes.
Ah oui.
Puis pourtant, c'est un médium qui existe depuis super longtemps, mais souvent, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Donc, oui, on trouvait ça important de rendre cet hommage-là aussi mm-hmm. aux femmes.
Et ça fait du bien de voir un enfant en contact avec un micro au lieu d'un, je sais pas, un téléphone cellulaire. Ou...
Oui, mm-hmm. oui, oui, c'est ça. Ça c'est le côté vintage, justement, de ouais, la radio.
Mais le livre touche à des... Il y a quelque chose d'un peu anachronique. Si on avait voulu être dans l'air du temps, c'est un balado qu'elle aurait fait.
Ou même une vidéo YouTube.
Oui, oui, c'est ça. Mais on, ouais. Tu sais, puis Xavier, en plaçant justement la radio Fisher-Price dans la chambre, il l'a justement sorti un peu de l'époque actuelle. Puis avec le flash des micros, chaque page,
oui.
Il a choisi un micro différent.
Une banane, un coffre à crayons.
Le tube de pâte avant, grand favori de tout le monde.
Ah oui, c'est mon préféré.
Le seul téléphone qu'on voit, c'est le prof d'éduc qui texte.
C'est ça, on se dit, on est où, là?
Oui, oui, oui. Il y a des références, on voit, mais ouais, Rosalie est comme pas intéressée par ça. C'est comme son imaginaire est plus développé, puis elle se contraint pas au téléphone. À part à la fin, quand elle dit que si on a des questions, on peut envoyer un texto à ses parents.
Bon, alors, vous avez eu une belle idée, puis ça s'est bien concrétisé parce que vous disiez au début, Maude, on n'était pas sûr là, si ça allait plaire à un plus grand nombre, mais finalement, ça fonctionne. Là, on entend parler de ce livre-là. Est-ce que vous pensez que dans les écoles, ça pourrait circuler? Bien, dans les maisons, certainement, j'espère.
Bien, il y a des profs sur les réseaux sociaux, en fait, qui en ont parlé puis qui disent qu'ils voient plein de possibilités pédagogiques avec. Fait que moi, je suis ravie parce que, comme pour moi, je suis enseignante là, dans la vie au cégep, mais ah oui. Pour moi, le potentiel pédagogique des livres, je trouve ça merveilleux quand on peut en voir un.
Est-ce que... Oui,
mais oui, excusez-moi. Mais j'adore ça que les profs disent ça parce que, disons que le potentiel qu'on voyait le plus, c'est le potentiel de bonnes blagues à chaque page. Là, on ne l'a jamais pensé comme un outil éducatif. C'est important pour nous d'être vraiment dans le... par exemple, pour nous, Rosalie, c'est un enfant qui est neurodivergente, assurément. Elle a des gros écouteurs, il y a des signes, mais on n'a jamais voulu l'appuyer parce qu'on ne voulait pas faire un livre sur un sujet mm-hmm. ou pas dénoncer, mais comme traiter d'enjeux. On ne voulait pas que ça soit un livre d'enjeux, mais on voulait que des gens qui sont touchés par certains enjeux se reconnaissent et qu'on soit dans l'humour, dans ouais. les blagues et tout. Mais
c'est subtil.
C'est ça. C'est juste assez subtil parce que, ultimement, on voulait avoir du plaisir.
Ouais.
Je dis pas qu'on peut pas avoir de plaisir quand on fait des livres à enjeux. Maude le sait, elle fait des bons livres à enjeux. mais je suis content que les profs, ça résonne puis ça dépasse juste, ça va faire rire mes élèves puis qu'ils voient un potentiel pédagogique. C'est vraiment ouais, c'est le fun.
Est-ce que vous avez d'autres projets ensemble, les trois ensemble?
Pas pour l'instant, mais on aimerait ça.
On continue à jouer, ça ferait un bon livre pour enfants.
Exact. Je sais où ce qu'il habite.
Si t'as une idée, tu peux débarquer chez nous.
C'est ça.
Mais ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle le titre de votre livre, Radio Rosalie, et qui est dédié à la plus choupie des filouminous. J'imagine que c'est votre fille.
Notre verbomoteur oui. en personne.
Et aussi à Cassandre.
Qui est le verbomoteur dans ma famille.
Ah oui. Bien, merci beaucoup. Puis bon succès et bonne suite. On vous réinvitera pour d'autres projets parce que ça ne finira pas avec ce projet-ci. Merci.
Merci. Merci.
Je vais sûrement finir toute seule.
Dépotoir, une chanson de Gab Bouchard.
Oui, alors ils étaient sympathiques, ces trois joyeux lurons, pour parler de Radio Rosalie. Ça m'a fait plaisir de les rencontrer. C'est toujours bien d'avoir des gens qui viennent en studio. Alors ce soir, imaginez-vous donc, Mathieu, que je fais une belle sortie qui va peut-être rendre jalouse quelques personnes. Serge Fiori, Seul Ensemble.
Ben oui.
C'est le spectacle Harmonium Serge Fiori, Seul Ensemble par le Cirque Éloise et les billets se vendent vite, vite, vite. Et Serge Fiori, Seul Ensemble renoue avec l'univers musical de Fiori et d'Harmonium en réunissant musique, cirque, danse et poésie. Des chansons comme « Vert, Depuis, L'automne, Si bien, Viens danser », un musicien parmi tant d'autres prennent une autre dimension, portée par des acrobates qui défient la gravité et des tableaux scéniques à couper le souffle, paraît-il. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Revisité sous la direction musicale de Louis-Jean Cormier, Alex McMahon et Guillaume Chartrain, les chansons de Serge Fiori rencontrent les prouesses athlétique et poétique du Cirque Éloise dans une mise en scène de Benoît Landry. Alors, j'assisterai à cette grande première. J'imagine que ça va attirer pas mal de monde, cette première, le gratin, comme on dit. Je me dis ça en toute modestie. Et ça se passe au Théâtre de l'Espace Saint-Denis ce soir, cette première. Il y aura plein de représentations à Montréal, à Québec, à Gatineau, à la Baie, à Sherbrooke. Pour tous les détails et pour l'achat de billets, vous pouvez aller à seulensemble.ca. Traversière, Harmonium. Avec la fête du travail, c'est vrai, c'est en fin de semaine, ça? On a congé lundi, Mathieu, on va se voir mardi. Alors, avec la fête du travail revient le Festival Trad de Montréal, tenu à la Maison de la Culture et au Parc Onsic. Il s'agit de la 6e édition de l'événement et met cette fois-ci en vedette des artistes comme les Mercenaires du Terroir, Pine Tree Flyers, Olivier Soucy Trio, Sandrine Masse et plusieurs autres. Alors, si ça vous tente, ça se passe notamment au Parc Antic en après-midi. Et les activités payantes, elles, se tiennent de jour comme de soir à la Maison de la Culture Antic. Dernier des gros festivals de l'été, le Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue se déroule jusqu'à dimanche. Si une virée à Rouyn-Noranda vous tente en ce long week-end, vous aurez le choix entre 80 spectacles qui sont présentés sur une des 15 scènes à l'intérieur ou à l'extérieur. Lou, Adrienne Cassidy, Les Louanges, Chose Sauvage, Corias, Philippe B., etc. feront vibrer pendant 4 jours la ville natale de Richard Desjardins. Bon long week-end et à mardi.